Voilà, 22 novembre sur Radio Libertaire. Non, je ne vais pas dire 22 v'là les flics, 22 novembre. Et sur RL, sur Radio Libertaire, pour ceux qui viennent de débarquer. Ou qui,
la voix tendue d'Unimed de la Fédération anarchiste.
Chronique oui. Hebdo.
Et c'est l'émission Chronique Hebdo. Alors, est-ce que tu voulais présenter cette émission?
Alors, voilà, je voulais faire un petit commentaire d'introduction, Jacques. Aux auditeurs, d'abord...
Nous sommes tous les trois. Gérard est là, Josie est là, et ils m'ont pas laissé tout seul, comme la dernière fois, où les auditeurs, au téléphone, oui, se sont bien. Dit, ont réclamé, ont dit, mais enfin, pourquoi as-tu été abandonné peut-être parce que j'avais un ton un peu pleureur.
Voilà. Bon, alors, te voilà entouré, entouré de tes compagnons. Et voilà, pour cette émission, j'avais envie de commencer par un petit texte de Alain Accardo, parce que justement, alors en préparant l'émission, on disait qu'il y a des choses dont on n'a pas tellement envie de parler, parce que c'est relativement courant et tellement ordinaire. Comment ?
On en parlera peut-être un petit peu.
Oui, on en parle. Oui, c'est toujours de ce qu'on veut pas parler qu'on parle, oui. Mais la course au pouvoir, bon, ça commence à devenir vulgaire.
La foire du trône numéro 2, oui.
Alors, donc, je voulais faire un commentaire, ou plutôt parler un petit peu d'un article qu'a écrit Alain Accardo, qui revient sur une affaire de... Vous savez, vous vous rappelez certainement l'affaire de faux espionnage de l'entreprise Renault, où des cadres avaient été accusés d'espionnage, et finalement, il s'est avéré que c'était faux. Et on sait maintenant que la direction avait même imaginé qu'ils pouvaient, dans le désarroi dans lequel ils se sont trouvés, hein, ils pouvaient envisager de se suicider. Et donc, on voit que c'est, il n'y a pas que l'armée qui compte sur des sacrifiés, les 8% ou les 10% de sacrifiés.
En bout de course.
Voilà. Voilà, c'est que ils ont même imaginé qu'après les coups tordus, après les imaginations, après tout le complot qu'ils ont conçu contre eux.
Mais tu crois qu'ils voulaient les pousser au suicide?
Ah ben ils l'ont envisagé, en tous les cas, ils l'ont vraiment...
C'est évoqué.
Ils l'ont vraiment imaginé.
Et en plus, ils pouvaient l'imaginer, puisqu'il y avait eu déjà de nombreux suicides...
Ah ben en plus à Télécom, Renault. Voilà.
Et puis, non, mais en plus, sur le siège de Renault, qui est rappelé...
Ah oui, à Saint-Quentin.
Oui.
Situé à Guyancourt. Hein,
ouais, chez toi, ouais.
À Saint-Quentin, et qui font que les ouvriers de chez Renault... sont totalement désespérés, parce que vous savez, selon la formule, il ne faut pas désespérer Billancourt. Là, ils sont totalement désespérés. Il y a eu plusieurs suicides, plusieurs affaires, justement, de suicides à 50 ans en Yvelines. Alors donc, la direction, la tête de Gonne, ait envisagé, évidemment, pour se débarrasser des gens qu'à terme, par le harcèlement peut-être, hein, et puis par toute la pression qu'ils mettraient sur eux, qu'au bout du bout, il se suiciderait, c'est quelque chose qui va dans la logique même du système capitaliste.
Alors, c'était pour...
Vas-y, continue.
Oui, voilà, pour dire donc ce texte. Alors, il dit, cette constatation, c'est que le monde est en guerre et en guerre totale, simultanément ou tour à tour économique, sociale, politique, militaire, psychologique et même sainte. Elle donne le droit à tous les états-majors de toutes les armées de la planète, engagées sur tous les champs de bataille, chez France Télécom ou chez Renault. Oui, je crois que... Je suis désolée, Gérard, je crois que je n'avais pas mis ton micro. C'est peut-être pour ça que quelqu'un appelle. Donc, je... Voilà.
Mais il sera
c'était
mieux,
bien ça, le petit
l'année.
Bruit. Alors, je suis désolée pour ce petit blanc que... De Gérard, tu répéteras.
Mon petit coup de blanc, ben
voilà,
je dirais.
Ce qu'il disait, c'est que donc sur tous les champs de bataille, chez France Télécom, chez Renault, en Irak ou en Afghanistan, et de faire en toute légalité, évidemment, et en toute fierté, autant de victimes qu'il en faut pour emporter la victoire, y compris dans les rangs de leurs propres combattants, dont tous les hauts commandements civils et militaires sont officiellement autorisés à sacrifier un certain pourcentage. En retour, les sacrifiés ont l'assurance que la nation tout entière gardera une pensée particulièrement émue pour leur famille et que leurs noms resteront gravés dans le marbre de quelques monuments commémoratifs. Alors sur cette guerre, oui, alors en ce moment justement entre Gaza, entre la guerre des partis, hein, entre la guerre au sein des partis, la guerre fratricide, on voit vraiment que... C'est vrai que l'individu a plus aucune morale et qu'on est prêt à éliminer même ses compagnons de route. Et on le voit justement dans on l'a vu avec Ségolène Royal, on le revoit encore avec... Donc on avait dit on parlera pas de ces gens-là parce que c'est tellement ignoble, mais on parlera peut-être de Gaza, on parlera certainement de toutes les autres guerres, formes de guerre.
Mais pour compléter ce que tu disais à propos des suicides chez Renault, et Gérard disait que ça se passait à Saint-Quentin, qu'il y avait eu effectivement toute une affaire importante sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, oui. Eh bien, il me semble avoir lu dans la presse récente que le fameux Gaune, là,
la tête de Gaune, ouais.
Le patron de chez Renault, oui, venait de... je ne sais pas s'il a obtenu, mais il venait de faire un chantage à la diminution de salaire en menaçant de déplacer l'une ou l'autre de ses usines en Roumanie ou dans un pays de l'Est où les salaires seraient moins payés. Et je ne suis pas sûr que, finalement, tout à l'heure tu disais que les salariés étaient désespérés, qu'il y avait vraiment une...
Oui, reprenons la formule, si on n'a pas entendu, vous savez, les auditeurs de Radio Libertaire, la fameuse formule, il ne faut pas désespérer, d'autant où Renault est installé à Billancourt, on dit dans les Hauts-de-Seine, hein, donc, qui a été transplanté le siège de Renault dans les Yvelines, donc à Guyancourt, à 50 ans en Yvelines, où maintenant, c'est pas, il ne faut pas désespérer, les travailleurs de chez Renault sont totalement désespérés, ce que je disais tout à l'heure, les nombreux suicides de chez Renault.
Voilà, mais alors est-ce que vraiment cette actualité, à savoir ce chantage, hein, qui est le fruit de, évidemment, du chantage capitaliste traditionnel, mais là, ça se passe chez, quand même dans une entreprise qui a une vieille histoire, une longue histoire. Est-ce que ce chantage à la délocalisation va réussir?
Oui, et puis pour compléter justement, puisqu'en même temps il y a ça de dire il faut absolument dans des conditions, parce que il y a eu le soi-disant les rencontres sociales, le grand raout entre syndicats et patronat, où il faudrait redonner du moral aux troupes, où il faudrait rechanger les conditions de travail, évidemment, qui sont absolument déplorables. Eh bien, là aussi, pour Renault, la bonne nouvelle, peut-être c'est un petit filet, parce que Monsieur Gaune, tête de Gaune, hein, c'était mentionné là, dans, vous verrez ça, je sais pas, peut-être Le Canard Enchaîné ou Le Monde, signalait qu'il venait de s'acheter une super propriété, en plus, comme on dit, un SDF, son domicile fixe, il a plusieurs habitations, et là aussi, de l'ordre de plusieurs millions d'euros, donc quelque chose, un manoir, hein, assez grand, plusieurs hectares, avec un vignoble, donc Monsieur Gaune est méritant, et Monsieur Gaune a réussi, et là, encore une fois, il se récompense lui-même, et c'est vrai que la logique même du système capitaliste, eh bien, c'est de faire disparaître, hein, comme on dit, variable d'ajustement, le plus possible de gens qui travaillent, le plus possible, comme on dit, de travailleurs, de salariés, eh bien, de diminuer de plus en plus, en diminuant, alors là, évidemment, vous le savez, les salaires. On a fait un sondage, hein, crapuleux, là, qui traîne comme ça. Des gens préfèrent qu'on leur baisse leur salaire plutôt que d'être virés. Voilà, vous n'avez pas le choix, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et donc, c'est des conditions, évidemment, de guerre. Hein, on l'a dit depuis plusieurs années, évidemment, ce n'est pas une nouveauté. Mais ça s'est complètement, là aussi, accéléré. Hein, cette guerre économique et les victimes, bah, c'est en nombre, hein, c'est en nombre, puisque les gens qui n'ont pas de revenus, les gens qui crèvent dans dans la rue. Alors là aussi, selon les différents pays, et puis évidemment les guerres continuent, mais qui ont bougé, qui ont un peu évolué, puisqu'on pourrait dire que le système capitaliste met ça et là des conflits, allume des feux. Hein, là aussi, c'est pas des feux de détresse, mais en même temps, c'est la détresse pour l'ensemble des populations. Et une autre façon aussi d'utiliser, comme on dit, le maintien de l'ordre sur les États, sur les pays, par la guerre.
Oui, là aussi, c'est par la peur, voilà, hein, ouais. Parce qu'effectivement, quand on voit les sondages sur les Français à 60% sont surtout préoccupés par la sécurité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? La sécurité, est-ce que c'est celle de continuer à trouver de quoi manger, de trouver un boulot? Et c'est aussi, mais cette confusion sur le terme de sécurité, c'est un encouragement aussi à trouver des boucs émissaires et à dire, ah ben nous, on veut plus des gens qui sont délinquants, on veut plus effectivement voir la misère à nos portes, hein, comme le fait Monsieur Valls et sa famille quand il ne supporte pas les SDF à côté de chez lui. Alors sur le plan justement de cette morale, de cette éthique, hein, puisque au fond plus on parle de morale, plus on est dans la totale injustice sociale. Et je voulais souligner tout de même le quelque chose qui pourrait s'appliquer justement à l'ensemble de cette situation injuste à propos de la relation entre le salarié et le patron. Que le salarié accepte de se plier à ce chantage, je crois que c'est absolument inacceptable. Alors je sais bien qu'on lui a jamais, bien qu'il y ait, il ait entendu parler de Proudhon, il ait entendu parler de la mutualité, il ait entendu parler des associations.
À l'école, mais, de la République. on en est sûr.
Mais sans traduire ça par, en effet, un espèce de renversement de la distribution de la richesse. Et je crois que accepter ainsi d'être la troisième roue du carrosse, derrière l'actionnaire et derrière le patron, c'est quelque chose qui effectivement est devenu de plus en plus insupportable et ce qu'on comprend pas, on peut dire en effet que les syndicats, il y a longtemps qu'ils ont perdu leur punch, mais ce qu'on comprend pas, c'est
on peut les voir autrement. Une autre analyse, quand même. Qui est devenue des partenaires, donc qui font tourner la machine et qui sont du côté du patronat. C'est pas un scoop. Hein.
Oui, alors voilà. C'est injustice sociale, c'est injustice morale, c'est injustice qui consiste à écraser finalement les salariés, alors que ce sont eux les producteurs de la richesse. Eh bien, une déclaration du président de la République sur un tout autre sujet pourrait nous amener à dire, eh bien, en effet, il n'est plus acceptable de supporter cette situation, parce que si vous ne le savez pas, vous l'avez peut-être entendu, Monsieur Hollande vient de dire qu'une loi qui autorise le mariage pour tous allait être votée, mais que si les maires des communes avaient un cas de conscience à appliquer la loi, ils pourraient se débarrasser éventuellement en le
clause de conscience
confiant à l'un de leurs adjoints, s'il y en a bien un qui veut. Alors ceci étant, ça a déclenché évidemment tout un tollé, y compris chez les ministres ou chez les alliés du Parti Socialiste, en disant, mais alors est-ce que maintenant les lois pourraient être considérées comme illégitimes, comme injustes, et que par conséquent la clause de conscience pourrait en effet être appliquée et dans tous les domaines où l'injustice c'est flagrante. Alors là, on parlait de la relation salarié-entrepreneur, entreprise. Eh bien, je crois que... Et alors, ce qui est intéressant dans l'actualité, c'est que j'avais vu qu'en Espagne, il y a des juges qui, eux, se posent en effet la question de conscience et qui disent, nous ne pouvons plus appliquer la loi qui veut qu'un banquier chasse un individu qui ne peut pas payer son loyer. Ouais. Et donc, je crois que sur ce terrain-là, je pense que c'est une façon... Hein, et est-ce que ça sera suffisamment développé, important et pris en considération pour être considéré comme une véritable révolution? Mais je crois que on est arrivé en effet à un stade où la loi n'a plus de légitimité.
Là, pour cette question, apparemment, ce que l'on sait, c'est que le sergent-major ou l'archevêque de l'Élysée est revenu sur ce qu'il avait dit, hein. Là, encore une fois, pour la clause de conscience, en disant la loi reste à la loi et que ça sera imposé. Est-ce que la remarque qu'on pouvait faire, vous le savez certainement, puisque les maires ont un pouvoir relativement limité, c'est le préfet. C'est le préfet qui peut intervenir et c'est le préfet qui peut décider donc de réquisitionner un officier qui pourrait être dans le coin public, comme on dit, dans le périmètre de la commune, mais aussi donc d'imposer au maire, hein, d'imposer au maire selon la loi, la Constitution, hein, qu'il faut regarder dans ce pays comment elle a été faite.
Mais
évidemment,
oui, c'est le préfet, le chef.
Exactement. Donc voilà pour ça déjà pour relativiser le pouvoir du maire dans cette démocrature.
On a souvent développé l'idée que nous ne sommes pas en démocratie parce que le maire est censé obéir à l'État centralisateur par le canal du préfet qui donne, il peut pas prendre une décision. La preuve, on est en train d'en parler en ce moment à propos de ce maire de la Seine-Saint-Denis qui veut prendre une décision.
Monsieur Gatignon, on en dira peut-être tout à l'heure un mot.
Oui, non, c'est pas lui, c'en est un autre. Un autre maire qui est plus peut-être même d'une ville plus importante que Sevran et que celle de Gatignon, qui a dit et qui est connu d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est pas Bartolone, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis, qui a dit eh bien moi je vais être obligé de faire un budget en déficit. Or là encore c'est interdit.
Oui.
C'est-à-dire que le préfet peut annuler la décision du maire.
Pour les collectivités, exactement.
Éventuellement chasser l'ensemble du conseil municipal et le remplacer par une équipe à sa botte. Alors, on peut dire que là encore, on nous parle de démocratie, on nous dit, vous allez élire votre maire, vos conseillers, et en réalité, ils n'ont absolument aucun pouvoir, ils sont sous la botte de l'État jacobin, de l'État qui, effectivement, en fait à sa tête. Mais ceci étant, comme tu dis, Hollande, comme d'habitude, il est revenu en arrière une fois de plus, mais ça prouve à la fois sa totale incompétence et sa totale méconnaissance même du droit, même si le droit français est parfaitement, comme beaucoup, malheureusement, illégitime. Mais injuste. Ce qui m'a frappé dans une séance de, je sais pas si tu l'as vu, une séance à l'Assemblée nationale, c'est un élu écologiste, je crois que c'est le président du groupe écologiste,
c'est Rugy,
qui a fait une analyse constitutionnelle et juridique sur, en effet, l'erreur que venait de commettre François Hollande.
Exactement. Hein. Et donc, c'était une question au gouvernement hier.
Aucune nuance. Au fond, ces gens-là se disent, mais du moment que c'est la loi, il n'y a qu'à fermer les yeux. Et la raison d'État, ça peut être la déraison, ça peut être l'injustice. Eh bien, nous l'appliquerons.
On peut dire, Jacques, par rapport à ce personnage qui fait partie d'Europe Écologie Les Verts, donc qui est très attentif justement à cette question de mariage. Et là, on en dira peut-être aussi un mot. Marion-Laye, la fameuse chanson de Juliette Gréco, je vois qu'ils se ressemblent dans cette chanson où elle dit, nous, on va pas passer par par l'état du mariage, par le mariage d'État, dans cette chanson. Donc Monsieur de Rugy, apparemment les questions écologiques, puisque c'est le groupe Europe Écologie Les Verts, ça lui passe au-dessus de la tête, il s'en fout un petit peu, puisque hier, en particulier, ses déclarations précédentes, il a bien dit, selon l'accord qui aurait eu lieu entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, que Notre-Dame-des-Landes n'était pas un fil rouge, et que le fait qu'il n'y aurait pas de médiateur, apparemment il n'y a pas eu de médiateur de nommer, eh bien ça serait pas un cas de casus, comme on dit, une raison de casus belli, hein, entre nous, et que donc on voit un petit peu le positionnement de Monsieur de Rugy, et le voir aussi hier particulièrement attentif à cette question sociétale et laissant de côté, parce que je vous recommande, hein, souvent on en a un petit peu parlé, cette séance des guignols, mais véritablement des guignols, vous pouvez, ça se passe sur les chaînes dites publiques, c'est le mardi et le mercredi à 15h, question au gouvernement, hein, donc question au gouvernement, vous pouvez voir aussi, c'est enregistré, hein, c'est sur internet, et là aussi, eh bien, il y avait une question qui a été posée, parce que c'était en fin de séance, c'est-à-dire vers 16h, sur ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes, une question en particulier d'un député particulièrement attentif à une violence qui aurait eu lieu justement à Notre-Dame-des-Landes. Hein, il y avait une bagnole qui aurait été brûlée, enfin bon, un personnage totalement... totalement inintéressant, qui avait une question de ne me pas relire sur l'énorme manifestation. Il y a eu à peu près 40 000 personnes, mais en ayant retenu qu'il y aurait peut-être eu un pneu crevé d'un vigile à Notre-Dame-des-Landes, totalement stupide, et on ne peut pas s'attendre à autre chose pour un député, en particulier de l'UMP, d'être stupide. Si des gens pouvaient encore émettre des doutes après toutes les pantalonnades et les bouffelleries qui s'est passé à l'UMP, ben ils en seront persuadés. Peut-être pas, hein, parce qu'il faut être complètement con, évidemment, pour s'intéresser à tout ça, comme le système médiatique. Eh bien, Monsieur Frédéric Cuvillier, hein, il est quand même, ce mec-là, secrétaire d'État au transport. Hein.
Et c'est un écolo.
Voilà. Non, pas du tout. Il est au gouvernement. Il dépend de Madame. Alors, pas du tout, Jacques. Il dépend de Madame Bateau, qui est soi-disant ministre de l'écologie et qui n'est pas écologiste non plus. Mais enfin, bon, ça, c'est le nom, l'appellation, et vous savez, complètement incontrôlé. Et lui, entre autres, alors, Frédéric Cuvillier, il est maître de conférence, encore une fois, on va dire très bien pour savoir un peu son pédigré en droit public, et ancien maire de Boulogne-sur-Mer. Et là aussi, eh bien, il a complètement détourné, il n'est pas du tout fait d'analyse à ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes en disant le droit, primauté au droit, il faut relocaliser l'aéroport.
Là, il répète simplement exactement ce que dit Hollande.
Exactement, hein, mais je crois que l'importance que ça peut avoir, c'est qu'on voyait bien que soit à ces questions d'actualité, Madame Flot, où justement tu viens de citer de Rugy, il s'en foutait complètement. C'était à côté complètement, aucune réaction, et on voit bien que c'est une séance de guignol, ces questions au gouvernement, où il y a un député qui pose une question, il y a soi-disant un mec du gouvernement ou une nénette qui répond, hein, c'est ça, et puis en dehors de ça, il n'y a pas du tout de débat, il n'y a pas du tout de contestation, il n'y a rien du tout. Et donc la question pour les écologiques, les écologistes soi-disant, hein, les soi-disant représentants, présentant évidemment ce qu'on peut en penser, eh bien, était totalement à côté. Voilà.
Oui, mais si tu veux, on a déjà, au fond, fait un peu le tableau de ce que c'est qu'un écologiste, et en plus un écologiste qui est sénateur.
Oui, mais il faut savoir que ces gens-là à qui on a affaire, ce sont véritablement les alliés, hein, les collabos de Hollande, hein, héros. Et donc, pas d'illusion, justement, pas d'illusion, comme il y en aurait pu pour certains, avoir avec ces personnages, avec ce genre-là. Et au contraire, c'est bien plus qu'une illusion, c'est-à-dire un retournement qui font absolument semblant de s'occuper de cette question importante, de ce qui s'est passé, de la manifestation, et qui en ont absolument rien à foutre.
Mais oui, mais si tu veux, je voulais dire que il y a longtemps qu'on sait très bien que Madame Duflot et ses collègues, enfin surtout elle, n'avaient qu'un objectif, c'est d'arriver au pouvoir, c'est de devenir ministre. Et par conséquent, toutes les concessions sont bonnes. Et il faut être réaliste, hein. On peut pas à la fois devenir ministre et puis en même temps garder la moindre idée de ce que c'est que la vision de son idéal écologiste. On dit souvent qu'il y a incompatibilité entre l'écologie et le capitalisme, et dans la mesure où les sociodémocrates aujourd'hui ne font que pratiquer le capitalisme d'une façon même plus hypocrite, parce qu'elle
non,
est tout à fait, elle est tout à fait évidente. À la limite, ils font même plus que du sarkozysme, ils font même plus que du libéralisme. Eh ben, il est certain que on peut pas avoir la moindre confiance entre guillemets dans des gens qui se comportent comme cela. Et je voulais ajouter une petite information pour montrer ce que c'est qu'un sénateur écologiste, exactement comme un ministre. Il s'agit du personnage qui s'appelle Placé, qui est bien placé, qui est président du groupe écologiste au Sénat et qui, soutenant les expulsions de Monsieur Valls, les expulsions de Monsieur Valls, écrit « Je ne suis pas pour qu'il y ait des camps de Rome. Ce n'est pas parce qu'on est écologiste qu'on est un babacool. » Alors voilà, ce n'est pas parce qu'on est écologiste qu'on est un babacool. Alors quand on entend ce genre de discours de la part d'un sénateur, et un sénateur qui prétend
là défendre encore
une cause, un idéal, et qui dit « Mais au fond, on peut les foutre à la porte, ces Roms, j'en ai rien à secouer, moi, je suis pas du tout un babacool. » Ben, on se dit « Mais au fond, est-ce que on peut imaginer que le choix de ces individus, le vote de ces individus, on reviendra peut-être un peu sur un article du Canard Enchaîné à propos du vote, l'urne funéraire, il appelle ça.
C'est bien.
Mais des gens comme ça, devraient être réduits au silence immédiatement. Je lisais il y a deux jours qu'aux États-Unis, il y avait au total 550 parlementaires. En France, il y en a plus de 900.
Oui, mais justement, il faut avoir des places, des postes.
Et en plus, ils veulent cumuler. Tous cumuler.
Alors si, la réflexion peut-être par rapport à ça, puisqu'il y avait Placet. De la même manière, on parlait de Rugy, enfin tous les pseudo-écolos. Eh bien, vous savez, comme on a évoqué la fameuse droite décomplexée. Alors la droite décomplexée, c'est ce que ça veut dire, c'est la droite extrême, hein, sinon l'extrême droite. Eh bien là, je pense que tu disais tout à l'heure pour les sociodémocrates, hein, avec ce Cuvillier ou avec ce Placet, eh bien on a à la fois des sociodémocrates totalement décomplexés et à la fois des écolos, enfin pseudo-écolos, parce qu'ils ont l'étiquette mensongère sur la tête, totalement décomplexés. C'est pour ça que la manière dont ils se lâchent maintenant, il n'y a même plus, c'est ce que je voulais dire, de retenue. Et que là encore, on peut dire que le discours même qui pouvait faire illusion politicien, eh bien, s'écroule totalement. C'est-à-dire, c'est la déliquescence la plus complète. Mais alors, on ne fait même plus semblant. Et là, on le dit.
Tu crois que c'est parce qu'ils savent maintenant que plus personne ne les écoute ou ne les croit?
C'est possible aussi. Alors, peut-être qu'ils ne les écoutent pas, mais ils sont quand même, encore une fois, peut-être, on l'a vu, avec ces bouffonneries, particulière à l'UMP, c'est-à-dire donc des pseudo-élections, mais qui étaient quand même des élections pour un candidat présidentiel. S'ils ne les écoutent plus, il y a encore une participation, il y a encore une activité autour de la votation qui est quand même relativement importante. Et là, il y avait une démonstration, en vrai, ce que l'on dit depuis plusieurs années, du grotesque, évidemment, de ces élections et puis cette majorité. Qu'est-ce que ça veut dire, la majorité? Et là encore, on a vu au travers de ça, et ça continue, hein, la lutte des places, comme on dit, la lutte des places qui a remplacé évidemment pour eux, mais il y a bien longtemps. Et donc, vous l'avez en grand. Mais on se demande, là encore, puisqu'on a fait souvent les analogies entre le système politicien et le système religieux, plus c'est con, plus c'est gros, plus c'est grotesque, et bien il y a toujours des fidèles. Ça marche toujours, comme tu l'as dit la semaine dernière. Alors Jacques, je voulais préciser, puisque tu avais évoqué l'affaire de Canterbury, je vais dire l'élection, de 100 ou 150e archevêque de cette église anglicane, hein, où il y a quand même 80 millions de brebis.
Qui avait un beau curriculum vitae.
Et alors, c'est le nom, quand même, pour les auditeurs, s'ils le trouvent dans la rue, s'ils le rencontrent, c'est Justin Welby. Et alors, quand même, il était, comme tu l'as signalé, quand même, rappelé aux auditeurs, donc, chez Elf, il a bossé très longtemps, donc, dans PDG, ou peut-être pas président, mais en tout cas, un cadre supérieur, comme on dit, chez Elf, pendant 11 ans, hein, j'ai regardé ça, et d'un seul coup, il a rencontré un pilier, encore lui, en 92, il est devenu prêtre. Après avoir été un malfaisant absolu du système, il a dit, je vais continuer à être encore plus malfaisant, donc je vais me convertir, je vais devenir prêtre. Alors en 92, et puis là, bravo, et bien, il est devenu archevêque, c'est-à-dire le pape anglican, là encore, des 80 millions de brebis, hein, pour montrer, là, puisque c'est décomplexé aussi, il n'y a pas de raison. Et là, nous, on l'est depuis longtemps.
Il vient à peine d'être nommé, qu'il vient d'avoir beaucoup de soucis, parce qu'il y avait un article hier, justement, disant que le synode de l'église anglicane, alors je ne sais pas quel est son rôle dedans, avait décidé que il ne pourrait plus y avoir, alors que ça existait jusqu'alors, de femmes évêque.
Oui, c'est ça.
Alors donc, ça y est, c'est un peu comme le mariage pour tous. En France, le mariage pour tous. Là, ça va être aussi. On peut plus faire une femme évêque. On voit vraiment pas pourquoi.
Et la petite histoire, enfin, par rapport à l'Église anglicane, il faut se souvenir quand même le schisme qu'il y avait eu avec le pape, parce que c'était une histoire de mariage qui pouvait pas se faire, on pouvait pas les divorcer. Donc ils se sont dit, allons-y, et on va faire une autre Église, hein, et donc constituer l'Église anglicane après encore une affaire de mariage. Alors ça, c'est vrai à rappeler pour montrer évidemment que tout ça, ça marche bien ensemble, hein, évidemment, le système religieux et puis le système politicien de la même manière, hein, comme on les a déjà dit, les cardinaux en costume, eh bien, sont des malfaisants. Et là, encore une fois, lui, la démonstration, puisque tu l'as évoqué la semaine dernière, hein, de cet archevêque de Canterbury, et là aussi, on peut dire, avec ces déclarations de ces archevêques politiciens en costume, et qui se lâchent totalement, et par rapport à leur type de déclaration, évidemment, qui font l'impasse, là encore une fois, totale sur les questions, puisque c'est elle fait totale, sur les questions d'économie et sur le fait que les populations, eh bien évidemment, sont malmenées de plus en plus. Hein, là, on reviendra tout à l'heure, en fait, sur une affaire là, européenne, hein, par rapport à la dotation européenne pour tout un tas de gens qui sont en train de crever dans ce pays, en Europe en particulier, hein, la fameuse dotation.
Il y a une réunion en ce moment, d'ailleurs, des finances européens, et ils savent qu'elle ne débouchera sur rien du tout, mais ils vont faire des beaux rapports pour dire que effectivement, ils se réuniront une autre fois pour essayer d'avancer, avec le risque aussi que les Anglais veulent à tout prix maintenant quitter l'Europe, et que donc on se demande ce qui va se passer si par malheur la perfide Albion continuait dans cette voie et se mettait à dire, nous on en a assez de participer à vos comédies et nous renonçons à poursuivre ça. Ceci étant, c'est vrai que on souligne pas à quel point il y a bien sûr que les sénateurs européens, les députés européens, toute cette mafia a intérêt à ce que ça continue. Tous les économistes qu'on peut lire dans la presse disent mais il faut absolument pas que l'Europe disparaisse, c'est épouvantable, etc. Mais d'un autre côté, dans la mesure où ils sont pas du tout ils sont pas du tout prêts à faire quoi que ce soit pour éviter les catastrophes qui se déroulent en ce moment en Grèce notamment, Portugal, etc. où effectivement on voit à quel point ce sont les banques et non pas les hommes politiques qui dirigent.
Oui.
Hein,
oui.
Donc,
et pour ça, Jacques, juste préciser, puisque tu évoques les banques, hein, par rapport à cette dotation, on peut dire, de l'Europe, qui était d'un budget en 2014 de 500 millions d'euros, hein, qui était destiné, donc, on appelle ça pudiquement, dans leur jargon infect, d'aide aux plus démunis. Hein, aux plus démunis. Alors, c'est toujours la même chose. Ceux qu'on a le plus spoliés, ceux qu'on a volés, hein, complètement, puisqu'on dit souvent les milliardaires et les riches dans cette émission, ce sont des grands voleurs, ce sont des criminels, hein, donc l'appellation réelle, et pas simplement de nous parler que ce sont des riches. Et là encore, par rapport à cette dotation, bah, rappelez que le primat, bah, c'est la banque, c'est les banquiers, et le 8 novembre dernier, on a recapitalisé la banque Dexia, ah, oui. De 5 milliards d'euros. Hein, voilà.
Si on fait le total, il doit y en avoir des dizaines de milliards.
En sus, comme on dit, c'est bien dit, des 6,5 milliards apportés en 2011, il fallait absolument sauver Dexia. Et là, on voit encore, par rapport au montant, hein, accordé à cette banque, elle a encore une escroquerie totale entre la France et la Belgique, et puis de dire, eh bien, on ne sait pas, hein, on ne pense pas qu'on pourra trouver 500 millions d'euros. Et là encore, voilà un peu la mise en parallèle, c'est-à-dire les sommes invraisemblables qui sont versées, évidemment c'est pas un scoop, une nouvelle, aux banques, et de la désolation dans laquelle les populations sont là, et ils parlent de démunis, totalement spoliés, totalement volés, dépouillés par le système capitaliste, et peut-être autrement, que là on le verra aussi, les mouvements qui ont été importants 14 novembre, hein, là aussi, eh bien, la propagande staffel, comme on dit dans cette émission, l'ensemble des grands médias, c'est-à-dire les grands médias capitalistes, les grands médias bourgeois, télévision, radio, n'ont quasiment pas parlé de ce qui s'était passé en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie et aussi un peu en France, hein, par rapport à l'ensemble des mouvements, et là qui ont été très importants, parce que il faut quand même le savoir, il y a eu quand même des bagarres, il y a eu quand même de nombreux blessés, il y a eu particulièrement dans les villes italiennes des tas de choses importantes, et ça n'a même pas fait une ligne ou un mot dans les radios et les télévisions.
Il n'y a pas eu du tout de développement. Il est certain que moi j'ai vu simplement une, à propos de l'Espagne, des manifestations gigantesques dans lesquelles les gens disaient, à propos justement de cette attitude des banques, qu'ils étaient victimes d'une escroquerie, puisqu'on voulait leur faire payer à eux, sous prétexte d'austérité, des exactions et des erreurs financières qui ont été le fait des banques. Mais alors, pour revenir à ce que c'est que cette mafia dont tu parlais, et qui est en ce moment en train de se réunir pour soi-disant trouver des solutions au maintien de l'Europe et de l'euro. Eh bien, voilà l'avis de Monsieur Hollande sur ses collègues. Monsieur François Hollande a fustigé lundi 19 novembre le comportement de certains chefs d'État visant notamment le Britannique David Cameron, avant le sommet européen du 22, bah c'est aujourd'hui, novembre, ouais, sur le budget de l'Union. Et ce que dit Hollande, c'est ils viennent chercher, hein, ces chefs d'État, ils viennent chercher leur chèque, l'idée qu'ils se font de l'Europe est d'obtenir exactement ce qu'ils ont versé. Oui. Alors, effectivement, on peut dire qu'à partir de là, ben voilà ce que c'est. Et il y a un autre discours du ministre des Affaires financières, Moscovici, oui, hein, le petit zozo Moscovici, oui, qui lui aussi est un triste personnage, et qui lui, alors, disait à propos de ses collègues, non plus chefs d'État, comme vient de le faire Hollande, mais ses collègues ministres des Finances, ils disaient, mais il y en a un certain nombre qui sont un peu maboules. Il utilisait exactement le mot maboule.
On est d'accord. Hein. Alors, non, c'est pire que ça. C'est
voilà
pire
le
que
niveau.
Ça. Oui, le niveau.
Donc on peut dire qu'à la fois, ils viennent chercher leur fric, ils viennent chercher leur chèque et ils sont maboules. Ben, voilà ce que c'est que la classe politique. Et c'est cela que vous avez voté.
Oui, voilà. Vous n'êtes pas déçus. En tout cas, En tout cas, on peut dire que l'ensemble, là, ça a été très très vite. Hein. Eh bien, on avait annoncé, on peut dire, il y a très longtemps, donc sur Radio Libertaire, hein, là encore une fois, cette foire du trône, hein, Jacques, comme on l'avait intitulé. Eh bien,
c'est
là,
c'est le titre de Libération.
Et c'est le titre repris. Et on peut
on
dire
demander,
que les journaux,
demander,
à partir
demander.
De ce qui s'est passé, évidemment, de cette pantalonnade, enfin, on ne sait pas comment, parce qu'il n'y a pas de mot, comme disent certains,
ouais,
dans
faire,
des pauvres dans, à la radio, à la télé, il n'y a pas de mot pour dire ce mot,
ouais,
décrire
ouais,
ça.
Oh, c'est quand
non,
même...
mais là,
et toi qui aimes bien faire des jeux, toi qui aimes bien faire des jeux de mots, tu pourrais faire le mot avec ces deux personnages.
Avec,
c'est une histoire de coillon flippé. De coillon flippé.
Oui, oui, non, mais aussi.
Ah non, je crois que c'est plus grave que ça. Moi, je trouve que c'est par rapport à ce que disait Cardo, c'est vraiment un pouce au crime, un pouce au suicide. Hmm. C'est vraiment une. Enfin, je sais pas, moi, c'est. Je sens ça comme des gens qui peuvent s'assassiner.
Nous, on est assez d'accord pour ça que l'UMP, les deux bandes,
oui.
en prennent
oui,
au couteau et aux armes,
ah
et
bah
en
oui,
particulier
mais...
le duel Fillon-Copé. Bah, hein,
à mon avis,
absolument.
Ils
hein.
sont pas loin.
Là aussi, puisque ce ne sont pas des lâches et ils parlent de leur honneur, là aussi, oui. il faut revenir sur des traditions qui étaient bonnes hein, à l'époque,
bah
le,
oui,
duel, hein.
le duel.
Là aussi, ça serait bien. Et puis leur second couteau, on les appelle les seconds couteaux, bah là, qu'ils le prennent, le second couteau, et puis qu'ils s'empoignent. Alors là, ça serait bien, voilà,
non,
on peut
la,
les encourager dans ce sens-là.
La démocratie est passée par là, et oui. maintenant, ça se règle au niveau juridique, hein, par exemple.
Au c'est juridique
le, au juridique.
Ah ben là, au on juridique. Peut dire la caisse, la COCOA, là aussi, eh ben, hein, on a entendu oui. la COCOA, qu'est-ce que c'était? Ça venait de sortir, commission de contrôle électoral, COCOA, et alors après, et on voyait des perroquets qui faisaient coco,
oui,
coco,
mais de toute
coco,
façon, ils doivent,
trop de coco.
Ils doivent se stiffer tous ouais. de la coco.
La cocoïne, la cocoïne aussi peut-être, on ne sait pas, mais ils n'ont pas besoin de ça pour être déjà défoncés complètement. On peut aller voir leur gueule hein, par rapport au pain au chocolat aussi, l'abuser
non,
du pain au chocolat.
Non, mais ce sont des assassins, il ne faut pas...
Oui,
on
mais
rigole,
ben, le résultat,
vrai,
non,
mais... Mais ce sont quand même des assassins,
oui.
il faut dire.
Sans couteau, que... comme disait Juliette, mais oh. non, là, ils en sont
oui,
presque,
oui,
on
oui,
leur non. souhaite à prendre des couteaux.
Oui, et puis, justement, il faut... Bon, là, on parle de la tranche des hommes politiques et tout, mais il faut voir les répercussions aussi sur les gens.
Bah oui,
et
bah
par
oui.
exemple, on voit, je voulais parler de ça parce que ça se passe pas loin d'ici, c'est à l'hôpital Tenon, où d'ailleurs dans beaucoup d'hôpitaux, on a supprimé toutes les interventions pouvant se faire pour les IVG. Et quand un hôpital continue à les pratiquer, il faut voir les manifestations de droite,
des intégristes
qui
avec
viennent...
Madame Frigide Bardot.
Ah,
Frigide
voilà,
Bardot, vous avez sûrement relevé justement l'équipe de Jalon.
Donc, par rapport à ce que je disais au début, le pouce au suicide, oui. le pouce au crime, il est vraiment partout, quoi. Oui. On pousse à se suicider des gens dans la misère parce que on ne pourra pas avorter ou alors les mettre dans une situation épouvantable, quoi.
Alors,
je ne sais pas si on.
Ben, on peut peut-être. On peut peut-être passer un petit passage.
Oui,
ben,
puisqu'on est.
Quelques chansons, là.
Oui,
pour,
ben, on va.
Sur Radio Libertaire, Chronique Hebdo. Hein.
Voilà, alors on va donner le numéro de téléphone.
Émission en direct. Voilà. Première émission en direct de la matinée.
Et après, j'aurai un petit entrefilé sur Notre-Dame-des-Landes.
Oui.
Ah bah,
alors aussi. Et puis, Jacques, on aura les autres sujets. Alors, sûrement, on vous parlera du nucléaire aussi. Hein.
On pourra parler
de
Gorce.
L'écologie.
Aussi,
oui,
j'aimerais
oui.
bien qu'on parle.
Relié
un peu
à l'écologie, les questions écologiques.
Voilà.
Ça aussi, ce matin. Donc. Restez à l'antenne, évidemment, de l'émission Chronique Hebdo, et puis quelques chansons, peut-être, qui pourraient illustrer,
et alors, oui, une
comme
première,
on dit, nos propos.
Une première pour revenir sur le tour de chant d'un copain. Alors, tout va bien, hein?
Tout va
tout
bien
va
avec
bien,
Yvan Dautin,
tout va bien,
ce matin.
Et surtout, ne changeons rien.
Surtout ne changeons rien, D'après nous, le déluge, ce n'est pas pour demain.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on se fait du bien. C'est lui qu'on laisse au juge. C'est un métier de chien. On sème la misère, on récolte du blé. Pour s'envoyer en l'air, on va se la sauter. Dans des places boursières, toutes au bord de craquer. Notre couche d'ozone et nos poumons d'acier parlent dans l'hygiaphone, histoire de se parler de la chute des pommes et de la gravité.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout ne changeons rien, on use et on abuse de ceux qui meurent de faim.
Tout va mal, tout va mal.
On est dans l'inhumain, notre dernier refuge, à l'abri du besoin. La manne financière, crédit plus intérêt, du système bancaire, pour mieux nous endetter, nous plonge dans l'enfer de la compta Walpé.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout ne changeons rien, le nucléaire infuse comme un poil dans la main.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on sent que ça vient, le radeau, la méduse et le mot de la fin. D'après nous, le déluge, ce n'est pas pour demain.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on se fait du bien, c'est lui qu'on laisse juge. C'est un métier de chien.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout ne changeons rien, le nucléaire infuse comme un poil dans la main.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on sent que ça vient, le radeau, la méduse et le mot de la fin.
L'habite dans un vieux HLM, un quartier pourri du 20e. L'a jamais pété dans la soie, la France d'en bas. Dans leurs hôtels particuliers ou bien leur restaurant branché, connaît pas l'ambiance des bistrots, la France d'en haut.
La casquette de la CGT, dans les manifs, les défilés, elle va à la fête de l'UMA. Ah, ah. La France d'en bas, elle va à la fête de l'UMA. Ah, la France d'en bas.
À l'inverse du bas populo, un peu comme la cerise sur le gâteau, y a les Rupins, les aristos de la France d'en haut. L'été pour les congés payés, elle va baver à Saint-Tropez. L'Ipari match ou bien gala, la France d'en bas.
À Deauville ou Bonifacio, elle se pavane sur son bateau. Elle joue au golf ou au polo. Oh, la France d'en haut. Elle joue au golf ou au polo. Oh, la France d'en haut.
Elle se passionne pour les people, remplit son caddie chez Lidl. à la cafétéria, la France d'en bas. Lorsqu'elle va faire les commissions, ça serait plutôt chez Fauchon. Tu la vois jamais chez McDo, la France d'en haut. Elle dépense tout son RSA. Elle va pointer au Pôle emploi. Compte les sous à la fin du mois. Ah, la France d'en bas. Compte les sous à la fin du mois. Ah, la France d'en bas. Sont égaux en droit. C'est la République qui dit ça. Mais il y en a qui sont plus égaux dans la France d'en haut. Si elle se promène à la nuit tombée, sans papier et un peu bronzée, elle visite les commissariats, la France d'en bas.
Dans une cellule pour VIP, espèce les ténors du barreau. Oh, oh, la France d'en haut. Espèce les ténors du barreau. Oh, oh, la France.
À 50 ans, si tu n'as pas une belle Rolex à ton bras, ça m'étonnerait que tu sois pas de la France d'en bas. Si tu veux planquer ton magot en Belgique ou à Monaco, à mon avis, tu es plutôt de la France d'en haut.
Ils se foutent de nous et ils ont de quoi. C'est nous qu'on les a placés là. Ils sont élus avec les voix. Ah, ah, de la France d'en bas. Ils sont élus avec les voix. Ah, ah, de la France d'en bas. Là été moins con. Cette fois-là, ah, la France d'en bas.
Radio Liberté, ben voilà, j'espère que vous avez tous une Rolex au bras pour avoir l'heure. Il est 11h05. Oui. Vous écoutez alors ma Rolex.
Non, justement, la Rolex, elle est hyper en avance. C'est qu'elle fonctionne pas très bien. On devait conseiller les Rolex, hein, évidemment. Il est 10h57 à notre horloge solaire.
Ah oui, mais moi, c'est métro, ah, voilà. La mienne.
Horloge solaire, 10h57. Et donc, on peut faire confiance au soleil encore. Et voilà.
Oui, alors attends, je voulais revenir pour l'histoire des IVG là. Il y a un rassemblement devant l'hôpital Tenon le samedi 24 novembre à 10h. Oui. Voilà, c'est important un petit peu de montrer qu'on tient à ce qui est encore des lieux où on puisse pratiquer les IVG et décider soi-même d'avoir un enfant ou pas.
Justement, peut-être voilà. Tu voulais revenir, il y a eu tous aux manifs, hein, repris par les crapules, les grenouilles de bénitier, et ça a été quand même violent. puisqu'il y a des femmes qui ont été agressées dans ces manifestations, hein, et puis Madame Forest, hein, qui a été quand même aussi molestée. Donc on voit, enfin, les fachos, là aussi, les intégristes, de quoi ils sont capables par rapport à la répression et la brutalité, et quelquefois aussi par rapport à des gens qui voulaient réagir. Eh bien, on a vu où se plaçaient les flics dans ces histoires-là.
Et la responsabilité, hein, côté... des politiques, oui, qui ne dénoncent jamais l'obscurantisme, oui, de la religion, quand même.
Et ben là aussi, je veux dire, l'activisme contre l'IVG, l'activisme, ouais, aussi contre ces femmes ukrainiennes, hein, qui revendiquent une forme de liberté, et là qui leur évidemment qui a déclenché là aussi des interventions extrêmement violentes, hein, par rapport à ces manifestantes. Et donc là on voit de quoi est justement alimenté par cette droite dite décomplexée, comment on peut encore réagir. Et ça, c'est particulièrement français, puisque dans certains journaux, en particulier, il faut lire la presse d'autres pays, ils dénoncent la xénophobie, particulièrement virulente en France. Hein, quand même, il y a un symptôme très grave.
Je donnais l'exemple du sénateur écolo placé qui disait « Moi, je suis pas un baba cool et qu'on foute les Roms à la porte, ça me gêne pas du tout. » Donc, effectivement. Et peut-être que si on analyse un peu ce qui se passe en ce moment à propos de droite décomplexée, de droite extrême, de France droite, enfin bon...
D'extrême droite.
D'extrême droite. Je crois que peut-être qu'un des effets véritablement néfastes, véritablement nocifs, parce que finalement on rigole un peu trop de cette tragicomédie de personnages qui s'engueulent, qui se maltraitent, qui s'injurient, mais ce qu'on peut craindre, c'est que leur comportement et leur discours, qui finalement est le même et qui est un discours extrêmement réactionnaire, extrêmement conservateur, extrêmement lié au discours lepéniste, au discours il faut des boucs émissaires, il faut chasser les étrangers, il faut revenir à la culture moyenâgeuse de la chrétienté, eh bien fasse des émules et se propage un peu dans la population, ce qui expliquerait ces fameux sondages dans lesquels les gens disent « Ah ben oui, nous, ce qu'on craint, c'est ce qui est notre préoccupation numéro un, c'est la sécurité. » Donc je crois que quand tout à l'heure tu disais que ces deux personnages étaient des assassins, je pense en effet que tu as tout à fait raison de dire que ce sont des assassins, non pas parce que ils ont un couteau entre les mains, ou s'ils en avaient un, on espère qu'ils s'entretueraient, mais parce que leur discours encourage tout ce qu'il y a de plus bas, de plus vulgaire, de plus abject dans le comportement et dans la tête de chacun d'entre nous. Hein, c'est ça qui est le plus tragique.
Hein, c'est
le fait que on a tous notre côté ouvert, solidaire, positif, et puis nous, on a tous notre côté sombre, saloud, en disant l'autre est un chien. Eh bien, c'est ce côté-là qu'ils sont en train de développer, de généraliser, et sous une espèce de forme de propagande, hein, parce que finalement c'est une propagande. Et ça, je pense que on ne souligne pas assez ce qu'il y a de plus ignoble dans ce discours et ces échanges sur le thème de il faut être réactionnaire, il faut foutre les gens à la porte, il faut que les étrangers se tirent, il faut pas que les gens puissent se marier quand ils le veulent et comme ils le veulent, il faut pas que les femmes puissent refuser un accouchement. Enfin, tout ce discours-là est véritablement scandaleux.
Non, mais ça, l'observation, Jacques, a été faite aussi par énormément de pays, hein, par rapport à lire la presse, comme je disais tout à l'heure, ou d'autres médias qui stigmatisent quand même ce qui passe en France, en particulier sur ce discours xénophobe, sur ce discours de haine, hein, qui est développé dans la société française, et qui, il n'y a plus, comme vous parlez tout par là, de barre de décomplexé, c'est-à-dire qu'on peut être fier, puisque il y a eu dernièrement le bras le bras d'honneur, on disait il lui reste plus que ça et c'est beaucoup trop de Monsieur Longuet, là aussi ils se lâchent totalement, on peut voir, donc ils s'en sont pas loin de ce discours qui est de plus en plus à l'extrême droite, hein, de ce discours aussi, eh bien, qui sert évidemment les intérêts du capitaliste, et là aussi quand même particulier, là, faudrait peut-être essayer d'analyser à la France, hein, par rapport à ce discours, comme on l'a dénoncé souvent par rapport à d'autres pays, on parlait de l'Autriche, on parlait de l'Italie, hein, par rapport à Berlusconi, eh bien là, par rapport à l'ensemble des pays d'Europe, il est particulier à la France. Et à la France, ça vient aussi de ce, peut-être de sa structuration, on voit aussi le passé militaire, le passé facho aussi, le passé pétainiste, hein, qui revient là et qui n'est pas passé justement par rapport à ça. Donc le côté autoritaire, ultra-autoritaire des spécificités françaises, le côté aussi très bigot, très catho de la société française, eh bien ça, comme on dit, comme je dis souvent, vous savez, le 60 millions de consommateurs, il faut voir les produits, hein, qu'est-ce qu'on a en magasin, qu'est-ce qu'on a en vitrine, eh bien là, de faire sociologiquement l'analyse de la population française et de voir comment ces discours, comment ces comportements, hein, comment cette façon de voir la vie, de voir le monde et de se comporter avec les autres est véritablement là dans ce domaine une spécificité française. Et là aussi, simplement rappelé hier, eh bien là encore dans le Fenestron, qu'est-ce qu'on voyait, hein, dans une chaîne publique, on nous rappelait deux personnages évidemment comme Mitterrand, revenait sur De Gaulle et Giscard d'Estaing, 2 heures sur France 3. Ouais. Voilà, donc radio, télévision, poubelle, on en a assez de tout ça. L'abjection, eh bien, on redéveloppait ça, on voyait, on revisitait M. Mitterrand, hein, sa fameuse croix de Vichy, sa fameuse Francisque, eh bien, on n'en est pas sorti, voilà. Et quand on parle qu'on est avec Hollande, tonton 2, eh bien, c'est la continuité sous d'autres formes, et elle est là, en permanence, dans la société française.
Alors, on pourrait quand même parler aussi de la résistance face à ça, parce que moi je constate quelque chose aussi au niveau de la résistance, puisque dernièrement sur plusieurs radios, et puis il y a eu un colloque la semaine dernière à propos d'André Gorz, donc on ressort un petit peu des figures importantes de l'écologie, donc nous on avait reçu Jean-Luc Porquet à propos de Jacques Ellul. Là, on ressort, donc il y a eu un colloque de 2 jours sur André Gorz. Alors, vous pouvez lire dans La Décroissance un déchaînement de Vincent Chesnais à propos des participants à ce colloque. Bon, alors Vincent Chesnais dit des choses justes et puis dit des trucs où on est un petit peu moins d'accord avec lui. Mais bon, c'est dans l'ensemble.
En tout cas, il est très sévère.
Oui, il est très sévère et il est assez radical. Moi, j'aime assez la radicalité. Alors, justement, pour en revenir à Gorz, justement, était considéré comme quelqu'un de radical et il disait l'écologie ne peut absolument pas se dissoudre, se s'impliquer dans le capitalisme. Non. Au moins de ce côté-là, il était clair. Alors on a un peu écouté ce qu'on peut lui reprocher un peu, c'est il a dénoncé l'industrialisation, mais pas assez la technologie comme étant quelque chose qui diminuait l'être humain. Et
il est mort il y a un certain temps quand même.
Il est mort en 2007, je pense. Hein, voilà. Mais Jacques Ellul était mort en 1995. Oui. Et donc, justement, je cherchais un petit peu, parce que tous les deux ont quand même une culture un peu chrétienne, il me semble.
Oui.
Et puis marxiste aussi, il faut le dire.
C'est français, alors, c'est aussi français, ça.
Alors justement, je me demandais si c'était rencontré. J'ai pas réussi à faire le lien. Je sais pas ce qu'ils pensaient l'un de l'autre. Un était belge, l'autre était à Bordeaux, mais il me semble que Ellul a passé un certain temps en Belgique. Enfin, bon, je ne sais pas.
Il est ici, enfin dans l'Hexagone.
Je ne me souviens pas d'avoir.
Ouais, enfin, bon, peu importe.
Ouais. Gorz.
Non, mais pour Ellul.
Pour Ellul, oui, Bordeaux. Et enfin, il n'est peut-être pas né à Bordeaux, mais il habitait Bordeaux. Et ce que je voulais dire, c'est justement il y a eu une émission de Daniel Mermet qui est revenue donc sur Gorz, une ancienne émission d'ailleurs, Et à propos d'un livre qui ressort, qui a été réédité, Jacques, tu dois te rappeler le nom, Fourel, je crois qu'il s'appelle.
Fourel.
Et donc, il parle de révolution. Et alors, lui, il dit, André Gortz, justement, il dit un truc qui est très courant maintenant, c'est que plus personne ne croit à une révolution rapide, parce qu'elle engendrerait les mêmes maux que ce qui produit, ce qu'il aurait produit. C'est-à-dire que s'il y a une révolution avec de la violence, changer tout du jour au lendemain, elle contiendrait en elle-même les ferments de quelque chose qui serait qui la détruirait ou qui la composerait d'une manière négative. Donc il était plutôt pour des réformes progressives. Et dans les réformes progressives, voilà, ce qui se passe souvent dans les mouvements actuels, c'est qu'on sent qu'il y a ce courant-là, c'est-à-dire qu'on renonce à s'opposer à la force. Et on a bien raison, parce que quand on voit la force en face, on n'a pas envie d'aller se faire casser la gueule ou d'aller au sacrifice bêtement. On préfère essayer de louvoyer, et comme il se passe à Notre-Dame-des-Landes, dont vous allez parler...
Sans flic. Justement, il fallait le préciser, le 17 novembre, ça s'est bien passé, il n'y avait pas de flics.
Alors juste, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à toute cette tendance actuellement dans les mouvements de révolutionnaires et quand même assez ne voulant pas s'opposer par la force à la force, on trouve ça intelligent, mais quand même il y a quelque chose qui, moi je trouve, qui est absolument négatif dans ces mouvements là et je l'ai vu et pour en discuter beaucoup avec des gens qui participent, c'est-à-dire qu'il faut avoir une voix commune et collective, c'est-à-dire faire nombre, et ça je trouve que c'est la pire des choses qui puisse arriver, et je pense que de ce côté-là, Gortz ne signale pas, mais je crois qu'on devrait pointer le doigt là-dessus, c'est-à-dire que de partout, on entend l'important, c'est d'être ensemble. L'important, c'est comme là, l'important, c'était que Sarkozy ne passe pas. Enfin, voilà, il y a toujours des prétextes comme ça, un but à court terme, et donc, écraser les opinions, c'est-à-dire alors que, à mon avis, le ferment qui serait vraiment d'un changement profond, ce serait justement l'acceptation de la discussion, de la confrontation, et d'essayer d'avoir justement des confrontations et des discussions qui soient de plus en plus ouvertes et tolérantes, mais pas tolérantes dans le sens...
Ouverte à la diversité,
voilà,
à la particularité.
Ouverte à la diversité, voilà. Mmh. Accepter les particularités. Mmh. Et ce qui n'existe pas, même dans des mouvements... très révolutionnaire.
Bah, c'est un petit peu pour ça que je reviens des fois sur Proudhon qui disait moi je veux pas créer un parti parce que je veux pas des militaires ou des militants qui simplement viennent me retrouver ou viennent faire nombre avec moi sans avoir véritablement eux-mêmes en quelque sorte analysé ce que je dis ou ce que les gens qui sont autour de moi disent et veulent faire, et donc cette espèce de massification ou cette espèce de tous ensemble qu'on entend souvent dans les manifestations, effectivement c'est malheureusement le propre des partis politiques et la tendance au fait que les associations veulent avoir beaucoup d'adhérents plus que d'avoir de gens qui aient des idées pas forcément opposées mais variées, contradictoires et qui méritent une discussion.
Et puis on voit que ça engendre une violence incroyable, quoi, parce que dès qu'il y a justement une divergence d'opinion, on voit d'ailleurs si vous lisez La Décroissance, vous allez voir c'est lamentable qu'on en arrive à des oppositions parce que, à mon avis, on n'exprime pas assez, on ne conçoit pas assez la différence d'idées.
Oui, alors ça, une autre peut-être. Là aussi, tu évoques le fait de lire la décroissance. Donc, il faudrait être nombreux à lire le journal La Décroissance. Et là, on voit aussi l'emprise, la difficulté par rapport à le système médiatique dans lequel on est. Hein, comme on dit, qui possède l'arme de destruction massive et toutes les petites, les petits journaux qui sont grands, justement parce qu'ils sont porteurs d'idées complètement différentes, nouvelles ou de propositions. Eh bien, là aussi, n'arrive pas à être lu hein, par beaucoup de personnes. Et ça, c'est toute la question. C'est comme la même chose pour tout ce qui est un petit peu différent. C'est que ce n'est pas relayé par un système médiatique, comme on dit, par un système de propagande. Et pour exister, là aussi, on le sait, on l'a dit souvent, dans la société de l'image, hein, dans la société du spectacle, eh bien, il faut être présent. Et là aussi, c'est une autre difficulté pour enclencher un mouvement par rapport à prendre connaissance. Je parlais tout à l'heure peut-être de ce qui se passe à la bibliothèque La Rue, hein, ça concerne évidemment le mouvement libertaire. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, où le constat est fait que la fréquentation de cette librairie, la fréquentation aussi, le nombre de lecteurs, là aussi peut-être l'observation en diminution. Donc ce sont des éléments très importants hein, dans nos sociétés, et c'est vrai que on a, pour que ces idées justement nouvelles puissent se développer, ou anciennes de la même manière, comme on en parle souvent, comme on fait référence à Joseph Proudhon, mais il faut encore une fois, ou à d'autres personnalités ou d'autres personnes plutôt du mouvement anarchiste, eh bien, faut qu'ils arrivent à être reconnus, connus et au moins lus, et que des gens en aient entendu parler. Et souvent, justement, le système de propagande est très pernicieux pour empêcher au plus grand nombre d'avoir accès à tout ça. Et c'est ça une autre difficulté. Comment subvertir ces moyens de force de destruction massive, comme je dis, médiatique, pour pouvoir les retourner.
Mais regarde un peu dans les librairies, par exemple à la gare. Dernièrement, j'attendais un train et j'ai regardé, feuilleté un petit peu un tas de revues, mais la pensée anarchiste fait fortune, parce que vraiment il y avait un rayon, il y a les utopies, hors série du monde, les utopies, allez voir, par curiosité, le nombre d'idées anarchistes on en parle quand même un peu. Est-ce que je voulais rajouter aussi par rapport à...
C'est l'ersatz, ça, souvent, on dit.
La dernière chose.
On prend pas l'original, oui.
Mais c'est comme l'autre fois, on saupoudre, on essaye de donner un petit aperçu comme ça, général. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était une réflexion que Jacques me faisait par rapport à la décroissance, c'est qu'on peut y lire des articles, si j'en parle, c'est pas du tout que je suis d'accord avec tous les articles, c'est ça aussi, c'est sortir de la pensée binaire et d'accepter de trouver des articles qui soient mauvais ou des idées qui soient mauvaises dire, c'est ça qui est quand même déprimant, c'est que il faudrait absolument où on aime tout ou on aime rien, quoi. Voilà, il faut sortir un petit peu de cette conception là et d'avoir développer un esprit critique, ce qu'on essaye plutôt d'inciter ici dans cette émission.
Et à propos de la lecture et de la, au fond, de la démopédie, de l'instruction, comme disait Proudhon, en disant que finalement c'était ça la forme de la démocratie, c'était pas autre chose. Eh bien, est-ce que la technologie, le smartphone, les tablettes, toute une série de gadgets qui attirent, séduisent comme un jouet peut séduire un enfant, est-ce que ça ne contribue pas non plus à laisser de côté le bouquin, le livre, et puis on va plus dans une librairie, on oublie d'aller à la rue pour essayer de découvrir la pensée de Kropotkine ou d'Élisée Reclus. Et donc je me demande si là encore on a souvent développé l'idée, et il y a même un article dans Le Monde de cette cette semaine sur le fait que la technologie est souvent, hein, c'est même assez rare d'entendre ce discours-là, la technologie, ne nous voilons pas la face, une innovation technologique conduit le plus souvent à un transfert de nuisance, à un transfert de nuisance. Ça veut dire au fond que on peut pas là encore avoir une position binaire. C'est vrai que une invention technique ou technologique peut avoir un certain intérêt, mais il faut pas que il desservelle complètement l'individu et que il soit plus à même de la contrôler. Autrement dit, que cette fameuse formule, il ne faut pas que l'homme soit au service de la machine, soit réellement mise en pratique, parce que effectivement on a l'impression que à force d'être soumis à la machine, à force d'être en quelque sorte déconnecté des réalités et complètement
assisté et
paralysé d'une certaine façon quand il peut pas maîtriser la machine, et ben effectivement on peut dire que c'est plus une nuisance et une nuisance extrêmement grave que un point positif.
Alors, l'autre point, Josy, peut-être à soulever aussi, et par rapport aux gens qui peuvent faire un travail et même se mettre d'accord, l'exemple qui s'est passé là avec la dernière votation aux États-Unis, en Californie, il n'y avait pas que simplement les deux candidats à la présidence, mais il y avait aussi des gens qui votaient sur des décrets, sur des questions de sociétés très importantes. Et pour l'exemple, là, par exemple, en Californie, voilà ce qui s'est passé en Californie, énormément d'associations ont fait un travail remarquable d'information pour essayer de faire passer justement un décret interdisant les OGM par rapport à la part d'OGM dans l'alimentation, et c'était ça en Californie. Et donc tous ces gens-là ont été très activistes très longtemps, ça a duré l'information, et ce qui s'est passé, eh bien là encore on revient à l'arme de destruction massive, les télévisions, le lobby OGM, avec des centaines de millions de dollars, ont fait une propagande staffel, comme je dis, intensive sur l'ensemble des médias états-unis. Et les résultats, eh bien, des gens ont voté en faveur des OGM aux États-Unis. Et là, on le voit par rapport à des associations qui, sur le plan collectif, étaient très fortes et ont fait un travail remarquable. Eh bien, le résultat pour montrer, et même après, donc ces gens-là pourront se poser des tas de questions. Mais là encore une fois, au niveau de ces associations, sur leur travail remarquable, et même s'ils étaient unis et relativement forts, ils avaient en face d'eux une machine de destruction massive, comme on le dit. Et ça, c'est une autre analyse, une autre difficulté. Ça vient de se produire aux États-Unis. La population a voté en Californie pour les OGM. Voilà un peu, Jacques, je veux dire, une démonstration quand même qui est une autre difficulté qui fait que quelquefois les gens s'interroger par rapport à leur propre unité en étant écologistes, comme je pense ce mouvement-là aux États-Unis, et de dire, mais en face de nous, voilà ce qu'il y a, comment on peut faire pour informer, faire passer nos analyses par rapport aux OGM, et ceux d'en face, eh bien, comme ils ont une force de démonstration énorme, eh bien, là, c'est un cas précis, ça vient de se faire aux États-Unis.
Oui, ben regarde en Suisse, quand on a demandé pour l'implantation des mosquées, c'est un peu pareil, c'est facile de prendre un sujet comme ça et de...
Là aussi, voilà. Alors la propagande, comment va être développée, les armes en présence et ceux qui pourront intervenir, et c'est ça une difficulté qu'il faut...
Et puis toi, si tu es contre la majorité, t'es vraiment en dehors de tout. Quoi.
Et là, tu parles d'associations indépendantes, écologistes, mais en France, par exemple, ou en Europe, tu as toute une série d'autorités de sécurité, de santé, mais de médicaments qui sont entièrement entre les mains ajoutent un petit peu plus sous prétexte d'indépendance, sous prétexte que si c'est une autorité indépendante donc elle peut pas mentir. Eh bien regarde ce qui s'est passé avec l'affaire Séralini, les OGM,
bien sûr, là on voit, là aussi,
et avec l'histoire, ce qui est... Il y a un article d'ailleurs dans Le Monde sur ce sujet-là, dans lequel Serralini a quand même reçu l'appui d'un certain nombre de plusieurs centaines de chercheurs dans le monde, mais il est paralysé par, en effet, toutes les institutions, les académies, les autorités scientifiques qui, effectivement, refusent et sont entièrement entre les mains des fabricants d'OGM. Alors, ce qui me surprend, moi, qui ne connais pas le sujet en particulier, mais qui connaît, c'est le fameux Roundup, qui est un espèce de pesticide
herbicide.
Terrifiant, puisque même le paysan avec qui j'avais discuté de ça il y a fort longtemps, et même lui-même, il était à la fois un peu abasourdi par l'efficacité de ce produit et la dangerosité de ce produit, eh bien, on continue même si on n'avait pas trouvé tous les éléments pour dire les OGM sont dangereux. Le fait même d'entourer la graine d'OGM avec quelque chose qui tue, avec un poison qui tue, on pouvait se dire, ben non, il faut pas prendre ce risque-là. Ben non, pour des raisons, en effet, uniquement de fric, est prêt à tuer les gens. Quoi. Mmh. On est dans une société, en effet, où la mort, la disparition...
Oui, puis on essayait, dans ce qu'on développait, l'analyse, de faire ça aussi, d'essayer de voir les forces en présence. Hein. Là encore, puisque tu l'évoques, un petit film ou un film important, justement, mais qui n'est pas montré, tout ce cobaye, qui revenait sur ses expériences sur les OGM. Là aussi, l'ensemble des chaînes et l'ensemble pour les télévisions et des salles de cinéma, là encore, ils ne passent pas, ils ne programment pas ce type de film, comme on parle souvent des salles de la société française, au moins l'Hexagone, en large partie par le cinéma états-unien, par des films évidemment qui décérébraient les gens, essayaient extrêmement violents et tout comme ça. Donc c'est essayer de faire une analyse plutôt que de dire par rapport aux personnes qui participent à ce mode d'action, elles ont évidemment entre elles des divergences, mais quelquefois il faut quand même, je pense, analyser bien ça, malgré leurs divergences, la force en face, et donc c'est quand même un constat, c'est pas un constat de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, mais de bien montrer que la force en face est particulièrement brutale, particulièrement organisée, extrêmement virulente, et que les personnes qui résistent, encore une fois, qui se battent, qui luttent, eh bien même elles sont pleinement d'accord sur cette question des OGM, mais elles ont des difficultés, justement, des difficultés à faire passer leur message, leur information ou leur film, parce que la société bloque à tous les niveaux, puisque tu l'évoquais, Jacques, tout à l'heure, pas simplement au niveau médiatique, mais tout un tas de lobbies, le lobby de l'agriculture productiviste en France, qui est relayé par Monsieur Le Foll, le ministre actuel de l'agriculture, qui est un productiviste, exactement par ça, qui ne veut pas développer d'autres types d'agriculture, en particulièrement écolo, on pourrait dire, relocaliser l'agriculture, foutre de côté l'ensemble des pesticides ou des poisons par rapport à l'agriculture. Et là, on voit bien, donc, médiatiquement, les lobbies, le relais politicien, donc c'est extrêmement difficile, et pour ça il faudrait peut-être après de dire que la responsabilité, je pense, et la force, elle est là, plutôt que d'essayer de voir que les gens n'y arrivent pas ou se disputeraient peut-être entre eux, mais ils se disputent pas forcément entre eux, mais c'est-à-dire que l'opposition en face d'eux, c'est considérable.
Tu parlais des États-Unis et de la Californie à propos de ces associations qui se battaient contre les OGM. Dans le supplément du Monde de vendredi dernier, dans le magazine, il y a un article de 2 pages sur un film qui est passé aux États-Unis, où apparemment il y a, et peut-être même ailleurs qu'aux États-Unis, qui s'appelle Gasland.
Oui. Gasland. Oui, qui passe sur Internet. On peut le voir sur Internet.
Sur le gaz de schiste. Oui. Et apparemment, le journaliste qui a fait ça a fait une enquête dans les dans les différents États des États-Unis où ces exploitations du gaz de schiste ont eu lieu et où les constats sont tout aussi tragiques que ce qui pourrait se passer si nous le faisions aujourd'hui en France, puisque on a souvent dit ah ben les États-Unis c'est pas grave, ils ont des tellement de millions de kilomètres carrés de superficie que ils peuvent en effet se permettre de faire des sans danger pour les populations environnantes, ils peuvent se permettre de faire de la recherche de pétrole et de gaz par effraction des terres, par effraction du schiste. Eh bien, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que le journaliste, moi j'ai pas vu le film, mais le journaliste qui a fait le film a interrogé tous les gens qui se sont trouvés dans ces zones des États-Unis où on a fait ces opérations. Eh bien, les conséquences sont aussi tragiques. Il y en a une qui est même absolument invraisemblable, qui m'a absolument sidéré. Dans un village où il y avait eu donc effraction, enfin je sais plus, on
appelle ça fracturation,
fracturation, c'est bien effraction,
c'est aussi effraction,
fracturation du gaz de schiste, et bien des conséquences se sont produites comme on le dit ici en France et ailleurs sur les nappes phréatiques. Bien dans à un certain moment dans une petite ferme, on ouvre le robinet d'eau.
Oui, c'est ça, oui.
On met un briquet dessus,
bien sûr,
et ça s'enflamme.
Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc on a le gaz au robinet.
C'est le gaz à tous les étages.
Oui, et Jacques, préciser que ce film, on peut le voir alors à disposition, un moteur de recherche sur Internet. Vous mettez Google ou Google, comme vous voulez. Vous mettez Gazland et il est en libre accès, libre service.
Gazland.
Oui, Gazland. Alors, puisque tu parles, évoque rapidement, je voulais dire pour le gaz de schiste, parler de. Alors, en gros titre, dans le quotidien officiel, comme on l'appelle, la Pravda du capitalisme, Le Monde, daté du 16 novembre, et ça n'a pas été beaucoup repris. Et là, pour une fois, l'article, Les erreurs de Michel Rocard et de François Fillon, Coquinet, sur le gaz de schiste. Un gros titre,
Mais c'est un pléonasme.
Ah oui.
Tout ce que dit Rocard est une erreur.
Oui, alors j'ai... Donc, pour les auditeurs, voilà un peu la déclaration.
Il va faire repentance.
Quand on sait, écoutez bien, que le gaz de lac était extrait, voilà. Pourquoi le gaz de schiste et gaz de lac? De dire ça a été une mine d'or, de gaz.
La France est bénie des dieux.
Bénie des dieux. Et il le dit, quand on sait que le gaz de lac était extrait par fracturation hydraulique. Alors c'est ça l'erreur, je vais vous dire après. Sans dégâts sur place, on s'interroge. Or la France est bénie des dieux. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Est trempés tous dans le bénitier. Pour l'Europe, elle serait au gaz de schiste ce que le Qatar... il n'avait pas picolé. Ce qu'il a... Il pris du gaz de schiste au pétrole. Peut-on s'en priver? Je ne crois pas. Et alors Fillon, évidemment, qui rebondit sur Rocard, il saute dessus. Oui. Alors avant, c'est démêlé. Comme Michel, décidément un des esprits les plus éclairés du pays. Je tenais quand même à le citer. Il est le plus éclairé. Il a, tu disais, tu sais, le robinet avec du gaz, donc Rocard dans les oreilles, il a du gaz de schiste, il suffit d'allumer. Alors il l'a dit, donc Fillon, le gaz de lac était extrait par fracturation, il reprend, hydraulique, et ce qui se faisait de peine à personne. Alors, erreur totale. Alors voilà ce qui se passait à Lac, c'était la fracturation pas du tout hydraulique, mais une technique d'acidification a été utilisée qui permettait de faire migrer les poches d'hydrocarbures vers les puits pour extraire le gaz. Donc c'est une technique qui n'a absolument aucun rapport. Mais ils entendaient peut-être la même chose, puisqu'on parle d'acidification, ça se termine par sion comme fracturation, donc ils se sont dit c'est tout bon. Sauf qu'à l'époque, Jacques, je termine, les problèmes des séismes, parce que dans Gazland monde, on l'évoque, ça provoque des séismes d'une magnitude relativement importante, et on le souligne, et bien ces mini-séismes, il y en a eu autour de Lac, hein, à l'époque, hein, par rapport à ça, donc qui n'était pas évoqué, évidemment, par Monsieur Rocard, il a même pas parlé de ça. Et on rappelle aussi, là encore, on revient sur les États-Unis, une petite ville de l'Ohio, où les secousses sismiques, hein, arrivent à avoir une magnitude de 4, ce qui est très important, ce qu'on souligne. Et alors là, on peut dire, pour l'analyse, que erreur totale pour Rocard, évidemment, pour Fillon, mais on est habitué. La comparaison, c'est pas du tout les deux techniques. Et il met totalement de côté l'histoire de détruire le sous-sol par le problème de mini-séismes qui peuvent avoir, justement, des effets sur l'ensemble des nappes phréatiques. Alors, voilà ces deux oiseaux. Donc, ce spécialiste Rocard, vous le savez, qui s'occupe de l'Arctique, hein, qui a une mission ronflante, hein, et qui payait grassement.
Chez les pingouins.
Ah oui, chez les pingouins, ouais, voilà. Alors, on ne peut pas, la fréquentation des malheureux, ils sont gentils, les pingouins, mais bon, oui. on fait du mal à M. Rocard.
Mais oui,
voilà.
Pour compléter ce que tu dis, on ne peut même pas faire une comparaison gaz de schiste, parce que le sous-sol dont on parle quand on parle de gaz de schiste, le sous-sol, c'est du schiste, hein, c'est-à-dire une pierre particulière. Or, il se trouve qu'à Lac, c'était du calcaire, et que ce calcaire était déjà fissuré, donc il n'y avait pas du tout besoin de le fissurer, il fallait simplement faire ce que tu as raconté, faire cette acidification.
Technique, complètement différente,
quand on prétend intervenir sur un sujet, puis qu'on n'est même pas capable de se dire, mais au fond, quelles sont les conditions dans lesquelles se sont produits ces deux opérations complètement opposées, à la fois sur des sols, des sous-sols complètement différents, bah effectivement on peut dire que on est à la hauteur d'un homme politique, c'est-à-dire n'importe
bien
quoi
sûr, c'est ça moment, n'importe quoi
du moment
hein,
qu'on
peu
est
de
dans
sérieux.
La ligne hein, du moment
exactement,
qu'on fait plaisir aux pingouins et à Sarkozy et du moment qu'on fait plaisir à n'importe quel soutien
comme aurait dit Madame Royal la gravitude de leurs propos, hein, c'est, et les conséquences aussi, évidemment, de leurs propos. Et là aussi, on voit bien que ces questions, justement, écologiques, hein, on pourrait les appeler extrêmement importantes, hein, puisque pour eux, c'est accessoire, hein, c'est une richesse, c'est béni des dieux. Eh bien, on voit bien la méconnaissance la plus complète. Et donc, là encore, celui qui m'éclaire, comme dit Fillon, Monsieur Rocard, ben voilà, voilà ce que vous avez en magasin, comme spécimen, comme tu disais, de manchot, j'irais plutôt que pingouin, parce que pour, mais les malheureux manchots, excusez-nous, hein, si vous nous entendez, vous avez autre chose à faire, par rapport à ces sinistres pitres, hein, mais les conséquences redoutables, et là aussi, on le sait aussi, l'arnaque, hein, par M. Hollande pour les histoires de permis, parce que d'autres permis, des dizaines de permis ont été déjà accordés. Oui. Alors, dans sa fameuse conférence, là, où M. Beauvais était ravi en disant l'abandon, eh bien, il n'y a pas d'abandon du tout. Il continue. Les compagnies pétrolières continuent leurs recherches sur des permis de gaz de schiste, hein, ça il faut le savoir quand même par rapport à ça, et ils ont fait illusion en disant il y en a 7 qui ont été bloqués, mais il en reste des dizaines qui ont déjà été ouverts, et là-dessus, les recherches entre guillemets, les techniques continuent justement pour le gaz de schiste. Voilà un peu, là aussi on parlait tout à l'heure, la difficulté de l'information de la population, hein, des gens par rapport à tous ces thèmes-là qui ne sont pas du tout évoqués. Et quand ça doit être évoqué, eh bien on fait appel à M. Rocard pour nous parler du gaz de schiste. Voilà un peu le sérieux, comme pour le nucléaire, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
Oui, on pourrait parler aussi un petit peu d'une affaire qu'a relevé le Canard, là, que je trouvais marrante. Oui. C'est, alors je ne me rappelle plus quelle université qui a été construite.
Oh ben, c'est moi, il voulait.
Oui, alors attendez. Ah, c'est toi qui voulais en parler. Eh ben vas-y, alors présente-le.
Non, alors oui, voilà, c'était, oui, évidemment, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, parce que...
passer à Notre-Dame-des-Landes.
Oui, ça sent le gaz.
Ah oui, ça sent le gaz à tous les étages. La tension, ça va être explosif.
C'est parce que c'est vrai.
Mais
que...
on va continuer à voter. Hein. C'est pour vous inciter à continuer à voter. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite parenthèse. vous dire que les Verts réclamaient des Vélib dans les villes qui soient électriques, donc alimentées au nucléaire. Eh ben, leur vœu est exaucé à partir du 25 septembre, on trouve des Vélib électriques.
Non, moi cette parenthèse sur Notre-Dame-des-Landes, c'est pour essayer d'épauler un peu Jean-Marc Ayrault, parce qu'il est complètement,
bah oui,
il est complètement dans le cirage.
Ah oui. Qu'est-ce que t'es charitable?
Il dit n'importe quoi. Ouais. Le malheureux informe avant même que le Conseil constitutionnel ait pris
Jean-Marc
une décision.
Jean-Marc Ayrault.
Il le dit. Ouais. Enfin, tout ce que.
On n'oublie pas l'université, Jacques.
Hein. Oui. Alors tout ce qu'il essaye de dire, c'est épouvantable. Et alors, donc, dans le Canard enchaîné, on peut lire ceci. Voilà, c'est un reportage qui a été fait le 12 novembre et qui est paru sur France 3. Eh bien, le sujet, c'était le suivant. Un bâtiment tout neuf de l'université Paris Diderot dans le 13e arrondissement de Paris est en train ou vient d'être construit. Il est destiné à 27 000 étudiants, vous entendez bien, 27 000 étudiants. Certains immeubles hauts de 8 étages, eh bien, leur seront pratiquement interdits. Voilà ce que le Canard dit. Et pourquoi ces bâtiments de 8 étages vont être interdits aux étudiants? Eh bien, parce que les planchers ne sont pas assez solides, se trouveront ainsi en accès limité au-dessus du 3e étage, un secrétariat pédagogique et une bibliothèque. La cause, eh bien, la cause, c'est la fragilité des planchers, et qui a été révélée par le Canard enchaîné, et que le maître d'œuvre qui a construit ces planchers est à l'économie. Et voilà. Vinci. Alors Vinci, c'est celui qui va faire
l'aéroport
du Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes.
On imagine très
bien que s'il y a seulement, comme pour l'immeuble de 8 étages, un tiers qui peut marcher, donc la piste principale s'arrêter au bout d'un tiers, et après les avions pourront plus rouler, faudra qu'ils reviennent sur leurs pas. Et quant aux différents immeubles qui seront construits autour, eh bien on peut en effet penser qu'ils seront réservés simplement à une bibliothèque pour les
c'est déjà ça, oui,
et les stewards et les hôtesses de l'air. Alors donc je crois que c'est bien ça ce que c'est qu'une entreprise de BTP, qu'un Bouygues,
on l'avait vu avec Bouygues, avec les centrales nucléaires.
Fragilité. On peut dire que à partir du moment où vous voulez faire à tout prix des affaires et le plus vite possible, eh bien vous êtes prêt à faire n'importe quoi et à construire dans n'importe quelle condition. Donc voilà encore une affaire qui va obliger Monsieur Jean-Marc Ayrault à changer de BTP.
Oui. Alors après, oui, et puis rassurer.
On remarque qu'il a le choix, c'est Bouygues ou c'est Vinci.
Et rassurer tous les gens, enfin en particulier, il n'y a pas qu'à les grandes métropoles comme la région parisienne, où beaucoup de parkings. Parkings, c'est Monsieur Vinci aussi, là aussi. Donc le danger, donc savoir que la manière dont il peut construire. Alors ça, cette information. Une information, enfin, qui est importante, je ne sais pas si ça a été repris des journaux, j'ai juste entendu ça hier, quand même, l'affaire du nucléaire. Là encore, une spécificité française, même le pays le plus nucléarisé de la planète. Là encore une fois, on l'a déjà dit, un nucléaire civil et militaire, c'est la même chose. Josy, tu rappelais les problèmes avec l'EPR de Flamanville, parce que pendant qu'on s'occupe de certaines questions, eux, ils continuent à construire. Avec cet EPR, avec les gros problèmes, ils ont eu dernièrement au niveau des cuves métalliques, obligés de les changer. Il y avait des problèmes déjà, c'était même pas installé de fissures par rapport à ça, ce fameux. Alors là, la note exorbitante de plusieurs milliards de dépassements par rapport à cette EPR, et aussi la dangerosité, puisque l'amiral Lacoste, comme je dis, nous a prévenu qu'un accident majeur est possible en France. Alors là encore une fois, Fessenheim, eh bien, on le ferme pas pour le moment, puisque puisque c'est reporté à 14, 15, 16, peut-être 17, hein, si on fait encore un effort.
Il a même dit que c'était inévitable.
Oui, oui.
Un accident majeur.
Majeur, exactement. Ah, mais,
c'est-à-dire
mais,
il n'est pas seulement possible.
Oui, oui. Inévitable, non, non, c'est les possibilités, Jacques. Inévitable, non, parce que là, c'était.
Ah non,
je
mais
pense dans la formulation.
Inévitable, ça ne veut pas dire qu'il va arriver.
Non, mais,
ça veut dire
non, non, mais parce
s'il
que.
S'il arrive, on ne peut pas éviter.
Est possible, oui. Exactement, je pense, dans ces termes. Alors, on reverra ça exactement. Par rapport à la. Non, à écarter, n'est plus à écarter. Hein, c'était ça, exactement, les déclarations de Lacoste par rapport à l'accident majeur en France, puisqu'on a dit que lui-même était venu nous dire qu'il fallait faire encore un petit effort pour Fessenheim, et si on arrivait en 2017, et ben peut-être avec une nouvelle équipe. Mais là où ils en sont, enfin, on ne sait pas, et puis on peut faire confiance à celle qui est en place, eh bien, on pourrait continuer, c'est pas démantèlement de Fessenheim. Alors, là aussi, par rapport à la spécificité française, et puis l'EPR qui a de gros ennuis, hein, qui coûte extrêmement cher, il faut le dire aussi, c'est tombé hier. Là, on était tout à l'heure, je vous parlais du droit public avec Frédéric Cuvillier, hein, donc, qui est le secrétaire d'État, qui dépend de l'écologie, par rapport à eh bien, le droit, encore une fois, vous savez, la cour d'appel, les belles cours qu'il y a en France, hein, les belles cours du droit bourgeois, du droit du plus fort, eh bien là, c'est la cour de cassation. Et c'est juste hier, vous savez que pour les conséquences de Tchernobyl en France, eh bien, il n'y avait qu'une seule personne, qui était poursuivie, c'est le moment de le dire, hein, et on l'a pas rattrapé, eh bien, c'était monsieur Pierre Pellerin, un professeur, Pierre Pellerin, qui, souvenons-nous, puisque Monique Séné est venue plusieurs fois, elle s'occupe de la Gazette nucléaire, parler du, et vous savez que, par rapport à la référence, hein, des scientifiques opposés, évidemment, au nucléaire, elle avait secoué le cocotier, c'est le moins qu'on puisse dire après, juste après Tchernobyl, reconnaître, et là, la reconnaissance, donc le nuage, hein, de Tchernobyl, il était passé au-dessus de la France, évidemment, et monsieur Pierre Pellerin, eh bien, à l'époque, il était en place, donc, les systèmes de sécurité pour le nucléaire, et avait dit, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, hein, puisque, on l'avait dit, il n'avait pas ses papiers.
Grâce aux douaniers nucléaires.
Donc, on lui avait dit, et après, embêtant, quand même, pour, on sait très bien, l'omerta, évidemment, le mensonge sur le nucléaire en France, l'impact de Tchernobyl. Alors, les pathologies, on le sait, par rapport à l'explosion des cancers, en particulier le cancer de la thyroïde. Hein, la Corse, là aussi, elle a été pas mal assaisonnée avec Tchernobyl. Et c'était totalement nié, puisque les enquêtes qui ont été faites au niveau des différents ministères, qui ont autre chose à foutre, hein, de la santé et tout ça, ont toujours bloqué ces enquêtes. Hein, ou par rapport, je me souviens de M. Kouchner, hein, ben, c'est un spécialiste. Alors, tout ça, ça avait été bloqué. Donc, il restait le professeur Pellerin, et le professeur Pellerin, en lui disant bah, « tu as menti, hein, puisque le nuage est passé sur Tchernobyl ». Et là, résultat, eh bien, le résultat est le suivant. La Cour de cassation, hein, c'était hier ou avant-hier, eh bien, a prononcé un non-lieu, hein, pour les poursuites engagées contre le professeur Pierre Pellerin. Alors, Pierre Pellerin, il faut le signaler quand même, il a ses 25 ans, 26 ans après 1986, hein, pour Tchernobyl. Pierre Pellerin a donc 89 ans, hein, je le signale quand même par rapport à lui. Et là, la Cour de cassation a dit, bah, y a rien, on n'a rien du tout à lui reprocher. On a, et finalement, ses déclarations étaient justifiées, puisqu'on n'a pas pu mettre en évidence, hein, la relation qu'il y avait entre le passage du nuage de Tchernobyl sur l'Hexagone avec l'augmentation des cancers. Hein, il y en a de multiples, mais en particulier la thyroïde en France. Alors donc, on est rassuré. Hein, et Michel Rivasi, qui s'occupe, vous le savez, on en a déjà parlé, de la CRIRAD, hein, et là aussi, plusieurs fois, où sortir du nucléaire. Toutes les informations qui ont essayé d'être communiquées, eh bien, est le seul recours, nous dit-on, il s'est engagé un recours, et ça nous rassure, devant la Cour européenne de justice, et là, on peut être sûr qu'il se passera évidemment absolument rien. Et le constat que j'entendais de journaliste, c'était de dire, eh bien, le nucléaire, hein, c'est vraiment une spécificité française, c'est l'omerta, et le mensonge. Et puis circuler maintenant, ben c'est fini.
Et c'est l'impunité pour les responsables.
Bien sûr, ben il y en avait qu'un, mais là c'est le non-lieu pour Monsieur Pellerin.
Imaginons que la bande Rocard-Fillon ait réussi à convaincre et qu'on commence à perforer du gaz de schiste, et avec les conséquences que ça peut avoir, eh bien, d'ici 10 ou 15 ans, s'ils sont encore en vie, ils seront exonérés de toute responsabilité pour les conséquences que ça aurait pu avoir.
Alors,
donc, c'est vrai que c'est...
Alors, est-ce qu'on
alors
fait
juste
une
ça, José, je voulais dire en conclusion que la Cour de cassation, donc, comme M. Longuet, avec son bras d'honneur, eh bien, aux victimes du nuage de Tchernobyl, hein, les gens, il y en a eu nombreux, hein, par rapport à l'augmentation de, et là, et c'est pas rien, hein, par rapport à cette maladie, et par rapport aux soins, de nombre de gens qui ont une opération, une ablation de la thyroïde, eh bien, la Cour de cassation, vous pouvez avoir confiance dans la justice de votre pays, comme ils disent, eh bien, fait un bras d'honneur aux victimes de Tchernobyl. Voilà, c'est une spécificité française, on est rassuré, et ça engage pour l'avenir, en particulier pour l'EPR, eh bien, s'il y a des fuites, ou comme l'accident majeur, on a dit pour M. Lacoste, qui peut être une probabilité en France, on se doute des conséquences, hein, sur le plan de la poursuite judiciaire de tous ces malfaisants, de tous ces criminels. C'est déjà joué, hein, la pièce est jouée, puisque M. Pellerin, eh bien, est acquitté. Et finalement, M. Pellerin, comme on dit dans le droit français, hein, tout à l'heure je parlais de droit public, eh bien, ça s'appelle un non-lieu. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà.
Voilà. Moi, je propose qu'on écoute Juliette Gréco dans la chanson Marion-Lay.
Gabi Verleur, Marion-Lay. Dans les bras de celle qui dort, qui leur enfin confiante et bête, parce qu'elle croit que tu es son maître. Moi je sais bien que tu t'ennuies, comme tu sais que je m'ennuie. Dans les bras de celui qui dort, orgueilleux, confiant et bête, tu le sais bien qu'on s'aime encore. Alors c'est deux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble.
Marions-les, marions-les.
Je crois qu'ils se ressemblent,
marions-les,
marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Il nous offre la guérison d'être le salut de nos vies, de briser la mélancolie à la source de leur amour. Mais que font-ils de notre amour, ceux qui ont pris la succession? Ils nous offrent que l'on oublie. C'est impossible, on s'aime encore. Alors c'est d'eux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Je crois qu'ils se ressemblent. Ils seront très heureux ensemble. Elles nous font rire, leur colère et leur rire nous font pleurer. Et leurs larmes nous indiffèrent, ils sont bien faits pour bien s'aimer. Marions-les, 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 marions-les. Mais nous deux rentrons chez nous.
Émission de commentaires de l'actualité. Donc, il reste 8 minutes avant l'émission suivante de Marlène, de Rimes et de Notes. Restez à l'antenne. Et donc, 10 minutes, Jacques, Gérard, des informations, des rendez-vous.
Ben, je voulais juste évoquer, parler. Alors, Le Monde Libertaire de ce jour, hein, vous pouvez le trouver dans tous les bons kiosques, comme on dit, c'est le numéro 1688, avec pour, donc en couverture, le contre le toc de la compétitivité, le choc de la révolte, et une page intérieure donc du Monde Libertaire. Je vous avais évoqué tout à l'heure la Bibliothèque Larue, vous connaissez peut-être l'histoire de la Bibliothèque Larue, qui se trouve pour l'Île-de-France parisien, puisque je sais que on est entendu et on le souhaite avec Internet hein, sur l'ensemble et de la planète, espérons en tout cas, situé donc pour ce qui concerne cette bibliothèque La Rue, au 10 rue Robert Planquette, hein, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Alors elle existait, donc elle prêtait évidemment des livres anarchistes, hein, donc de philosophie, de pensée anarchiste, et elle existait depuis une 12 ans. À peu près, voilà, 14 ans exactement, en décembre 2012, alors je vais vous dire pourquoi en décembre 2012, après 14 ans d'existence pour la bibliothèque La Rue. Alors, le constat, donc dans cet article, là, vous le trouverez, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de rencontres hein, qui ont été organisées dans cette bibliothèque. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient emprunter des livres, et puis des rendez-vous, des invités, des gens qui écrivaient des bouquins, donc des discussions sur énormément de thèmes, comme celui-là dont on vient de parler tout à l'heure, en particulier pour la question du nucléaire. Alors, il y a eu aussi, je me souviens, Les En Dehors, hein, l'ouvrage Les En Dehors, je vous conseille toujours. Donc la possibilité de trouver ça, et apparemment l'équipe donc qui animait cette bibliothèque La Rue, eh bien, on a un petit peu marre. Enfin bon, c'est comme ça. On va dire aussi peut-être aussi avoir fonctionné pendant près de 14 ans par rapport à ça. Alors elle souhaite en tout cas de savoir. Et elle va organiser ce samedi prochain, c'est-à-dire samedi 24 novembre, de 15h30 à 18h, une dernière réunion, dernière permanence, hein, comme on appelle ça, et peut-être évoquer la possibilité justement pour des gens qui seraient intéressés, hein, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, pour reprendre la relève, ou tout du moins sous cette forme, ou évoquer peut-être d'autres formes, eh bien, donc de ce travail important, hein, puisqu'il est mentionné dans cet article-là, ce constat, c'est dans la rue que l'on peut changer le monde, mais c'est aussi dans les livres que l'on trouve de quoi se changer soi-même, et en particulier, j'ajouterais, pour changer le monde. Alors, si vous le souhaitez, si vous des gens d'Île-de-France ou si vous venez à Paris, eh bien, la dernière permanence aura lieu ce samedi prochain de 15h30 à 18h, Bibliothèque La Rue, je vous le rappelle, au 10 rue Robert Planquette. Alors, il était évoqué aussi dedans, puisqu'on a évoqué tout à l'heure dans cette émission, eh bien, peut-être un faiblissement du nombre de lecteurs, du lectorat, comme on dit, là aussi de la fréquentation. Et ça, quelquefois, on peut l'observer. Alors, à la fois, peut-être une forme de lassitude de l'équipe depuis 14 ans, puis aussi de la fréquentation de la bibliothèque La Rue. Donc, le constat aussi, c'est pas forcément un arrêt définitif, hein, puisque la proposition est faite. Vous pourrez lire cet article dans Le Monde Libertaire de ce jour. La proposition est faite que si des personnes le souhaitaient ou si vous êtes intéressé, eh bien, pour prendre la relève ou tout du moins, eh bien, d'aller samedi prochain à la bibliothèque La Rue, je le répète, de 15h30 à 18h. Voilà. Jacques,
oui, on peut Josie. Rappeler aussi les soirées du vendredi à la librairie Publico, 145 rue Amelot.
Oui.
Et là, c'est la soirée vidéo Evening Land, le film de Peter Watkins.
Oui.
Voilà.
Passionnant. Alors, donc, on peut dire pour Peter Watkins, hein, auteur du film.
À partir de 19h30,
complètement hors norme.
Oui. La librairie du Monde Libertaire.
Alors, rappelez la librairie du Monde Libertaire, hein, Radio Libertaire, donc 145 rue Amelot. Après, c'est ça, après la librairie, c'est la librairie qui continue.
Voilà.
Et donc, cette soirée est conseillée quand même aux auditeurs, eh bien, de revisiter, s'ils le peuvent, en tout cas, Peter Watkins, hein, qui parle dans son cinéma, justement, puisqu'on l'évoque souvent, de la monoforme, hein, dans le cinéma, et qui a combattu la monoforme et qui a produit, réalisé, surtout, ce fameux film totalement hors norme de la Commune,
oui, de
Paris.
La commune
de et alors, celui-là s'appelle comment?
Ah ben je l'ai dit, Evening. Je lis le.
Est-ce que tu
j'ajuste
peux,
mon lorgnon.
Est-ce que tu peux.
Evening Land. Nous sommes à la fin des années 70. Une grève éclate dans les docks de Copenhague,
oui,
contre la construction de 4 sous-marins. Les ouvriers protestent contre le gel des salaires conclu par la direction pour remporter le contrat, mais aussi contre l'équipement des bateaux en missiles nucléaires. En dénonçant la brutale répression policière danoise et les violentes tactiques antiterroristes, ce film participe de la veine sociale et politique de Peter Watkins. Peter Watkins réalise Evening Land pour l'Institut du cinéma danois. À sa sortie en 1977, le film, traitant de sujets politiquement sensibles, a été vivement critiqué et n'a plus été projeté depuis. Alors donc, profitez, venez à la librairie et s'en suivra une discussion entre les observateurs.
Entre tous les participants.
Voilà.
Alors, c'est bientôt.
Alors, je rappelle juste le blog.
Il y a trois minutes encore,
oui. Encore, oui, je pourrais rappeler que
l'horloge solaire de
vous pouvez réécouter l'émission sur le site de Radio Libertaire, mais vous pouvez aussi les réécouter sur le blog de Chronique Hebdo et sur lequel nous avons un illustrateur qui de temps en temps nous fait à chaque émission, inspiré par ce qu'on raconte, de temps en temps, ça lui inspire un dessin. Et vous pouvez voir l'arbre de cils du flot, planté à
Notre-Dame-des-Landes.
Ce sont en fait des matraques. Et puis le dernier, c'était. J'ai un petit trou de mémoire là. Ben enfin, vous allez sur le site de Chronique Hebdo, blog Chronique Hebdo, et vous trouverez.
Le dernier, on va le dire, c'était la grande messe.
Révérend
de l'archevêque Hollande à l'Élysée.
C'est la conférence de presse.
Amen et
dont
la croissance.
Parlait Jacques la semaine dernière, où un tas de gens, un panel, mais pas seulement de journalistes, ont avalé la soupe.
La grande messe, hein, c'est ça, sur la croissance. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Et Josie a annoncé, alors, si on ne l'a pas fait ou on l'a fait, la chanson qu'on a entendue, Léa France d'en bas, par les Glauchos.
Oui.
Et puis aussi, la dernière chanson de Yvan Dautin, Tout va mal, hein, surtout ne changeons rien. C'est le dernier album d'Yvan Dautin. Alors voilà, on voulait vous préciser donc les chansons, puisque c'est une émission de chansons qui va prendre la relève de Rimes et de Notes, Marlène et ses invités. Et donc, on vous souhaite, puisque Chronique Hebdo pile à notre montre solaire, midi, eh bien, nous vous disons à la semaine prochaine.
Et nous nous intéresserons nous aussi à la chanson.
Salut.
Salut.